affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour. C'était un simple rouage du ministère de la Police Générale sous la Restauration, mais la préfecture de police de Paris devient, à partir de 1830, une grande administration dont le chef dispose d'un pouvoir presque aussi grand que celui d'un ministre de l'Intérieur. Dans une capitale en mutation, volontiers frondeuse, où le vol, le proxénétisme ou le meurtre tiennent leur place, la police est sur le qui-vive. Outre la traque des droits communs et des conspirateurs, la préfecture doit aussi gérer tout un ensemble de problèmes administratifs. Problèmes de voirie, librairie, imprimerie, théâtre, culte, hygiène publique. Personnage influent et redouté, le préfet de police devient un conseiller écouté. Une bureaucratie se constitue, un corps de police en uniforme est établi, des inspecteurs en bourgeois sillonnent les ruelles du Vieux-Paris et y laissent une réputation parfois pire que celle des malfaiteurs qu'ils poursuivent. Dans un de ses premiers livres, Jean Tullard, de l'Académie des sciences morales et politiques, a fait revivre l'histoire de cette police qui, dans le Paris d'avant la Révolution haussmannienne, inspira Balzac, Hugo, Stendhal ou Eugène Sue. Et c'est justement Jean Tullard que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour évoquer la réédition de son ouvrage intitulé « La police de Paris entre deux révolutions, 1830-1848 », paru aux éditions du CNRS. Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un livre qui a dû vous faire l'effet d'un élixir de jouvence, puisque avant d'être le grand historien de Napoléon que chacun sait, vous avez consacré votre thèse de doctorat, je crois, à la préfecture de police de Paris.
C'était une thèse de l'école pratique des hautes études, car effectivement j'étais candidat avant d'entrer à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, qui était également abritée par la Sorbonne. Et donc, il était de bon ton d'avoir fait une thèse dans cette maison. Et cette thèse, elle est effectivement consacrée à la préfecture de police. Et j'aurais dû la dédier à ma mère, qui fut conservatrice des archives et du musée de la préfecture de police. Rentrant donc de la guerre d'Algérie, nous sommes donc dans les années 60, je cherche un sujet de thèse et ma mère me suggère les archives de la préfecture de police qui avaient été longtemps dédaignées, pratiquement jusqu'en 1944, à l'époque où ma mère y a été nommée, les archives n'attiraient peu. Et c'est ma mère qui a donné à ces archives une grande importance, surtout pour l'histoire sociale, l'histoire du XIXe siècle, l'histoire politique, à partir de 1871. Pourquoi à partir de 1871? Parce que, et ça vous explique que ce travail soit relativement mince, les archives ont brûlé en 1871, la Commune a mis le feu à la préfecture de police et une partie des archives ont disparu dans l'incendie. Ce qui fait que les archives de la préfecture de police sont extrêmement importantes après 1871, mais moindre, contenant quand même d'énormes richesses, car le conservateur de l'époque avait caché, sentant le vent venir, avait caché ses archives les plus précieuses. Mais ce sont les archives administratives qui ont péri, pas les archives historiques. Et donc, quand vous faites une étude d'histoire administrative sur la préfecture de police, évidemment, vous manquez de renseignements, notamment les dossiers du personnel. Alors, il faut aller les chercher ailleurs.
D'accord. Et c'est ce que vous avez fait, donc.
C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous verrez dans les notes qu'il y a les archives de la préfecture de police, mais il y a aussi les archives du ministère de l'Intérieur qui étaient aux archives nationales, puisque la préfecture de police dépendait du ministère de l'Intérieur.
Alors, vous avez une histoire très personnelle, parce que comme vous l'avez rappelé, votre mère y travaillait. Et j'ai cru lire dans un de vos dictionnaires, soit le dictionnaire amoureux du cinéma, soit le dictionnaire du roman policier, que vous y alliez vous-même enfant, et que vous y rencontriez un petit peu la faune et le personnel. Non,
j'y rencontrais, effectivement. Si vous avez vu le fameux film de Clouseau, Quai des Orfèvres, avec le fameux escalier que descend Jouvet, que descend un certain nombre d'inspecteurs mal habillés, encadrant des truands qui sont d'une folle élégance, c'est tout à fait ça. Il y avait, au bas de cet escalier du 36 Quai des Orfèvres, il y avait la cage aux filles. C'était les filles qui avaient été raflées dans la nuit, qui étaient là et qui disaient « Passe-moi une clope, je te montrerai mon C. » Point de suspension, nous sommes à Canal Académie. Donc, c'était extrêmement pittoresque et je regrette que la préfecture de police, enfin la police judiciaire, s'en aille du 36 Quai des Orfèvres, car c'était un lieu mythique. Mais ce n'est pas le lieu où se trouvait la préfecture de police de l'époque que nous évoquons, c'est-à-dire la Monarchie de Juillet. C'était dans le même quartier, mais c'était ce qu'on appelait la rue de Jérusalem,
d'accord,
qui n'existe plus.
Alors, peut-on revenir peut-être aux origines de cette police de Paris, parce que on en connaît un embryon au XVIIe siècle avec le premier, donc le lieutenant de police Nicolas de la Reynie. C'est lui qui nettoie la Cour des Miracles.
Oui, ça commence par la lieutenant général de police, qui est non pas une charge que l'on achète, mais le roi nomme. Vous savez, c'est le principe de la vénalité des charges. Évidemment, le lieutenant général de police est dans, comme les intendants, est dans la main du roi. Il a ce qu'on appelle des lettres de commission, donc il peut être révoqué à tout moment par le roi. Et c'est là que commence à s'établir la grande tradition de la police. Avant, il y avait eu le chevalier du guet, mais le chevalier du guet, un thème de chanson bien connu, n'était pas très sérieux. Avec la Reynie, avec certains lieutenants généraux de police comme Sartine ou Lenoir, la police parisienne a commencé à prendre une très grande importance. Et elle s'est effondrée d'un coup au moment du 14 juillet. C'est-à-dire que le dernier lieutenant général, apprenant que l'on avait coupé la tête du gouverneur de la Bastille de Launay et que l'on avait effectivement coupé la tête du maire de Paris, du prévôt des marchands, a senti des picotements autour du cou et s'est enfui lamentablement. Il n'avait pas de force à sa disposition. Et c'est ça, nous allons y revenir certainement. C'est là, c'était la grande faiblesse de la police parisienne, c'est qu'elle était forcée de s'appuyer sur l'armée.
Ah oui. Alors, justement, pendant la Révolution, nous en sommes dans une période de grand trouble, et vous dites littéralement que les périodes de trouble sont presque plus favorables pour une police que les périodes de calme, parce que ça leur permet de se développer finalement. Alors c'est Fouché, on parle avec l'empereur des études napoléoniennes, ce serait dommage de ne pas faire un point sur le Premier Empire. C'est sous Fouché que naît vraiment une police plus structurée, plus organisée, plus spécifiquement dédiée à la poursuite des malfaiteurs.
C'est ça. Que naît vraiment la police. La Révolution, n'oubliez pas que sous la Révolution, c'est le principe de l'élection. Les commissaires de police sont élus. Ce qui, évidemment, paralyse en grande partie leur action. Bien évidemment que les administrateurs des départements, tout était soumis au principe de l'élection et même un temps au principe de la collégialité. Car s'il n'y avait qu'un commissaire à la tête de Paris, dans ses fonctions que va occuper ensuite le préfet de police, il y avait le bureau central, c'est-à-dire un bureau de 3 membres. Imaginez 3 préfets de police à la tête de la police parisienne. Et il est évident qu'ils se paralysaient et que l'action était moindre. Alors il faut attendre la loi du 28 pluvieux en 8, qui est le point de départ de la création de la préfecture de police.
Ce qui, en langage d'aujourd'hui, nous met en
17 février 1800. Vous voyez, vous ne me collerez pas sur le calendrier révolutionnaire. 17 février 1800, donc c'est peu après le coup d'État de Brumaire que est votée la loi sur les préfets, qui va établir ce qu'on appelait la centralisation napoléonienne. Et à Paris, comme Paris est une ville qui a révélé son caractère dangereux depuis le 14 juillet, et même si on montait à Étienne Marcel, donc on a eu le souci de donner à Paris 2 préfets au lieu d'un. Parce qu'on avait peur qu'un seul préfet soit tout puissant. Donc il y a un préfet de la Seine qui a en charge toute la partie administrative, sociale, et puis le préfet de police qui a dans ses attributions le maintien de l'ordre. Et donc le préfet de police apparaît avec cette fameuse loi du 28 pluvieux en 8.
D'accord. Et ensuite, donc, vous avez consacré une biographie également à Joseph Fouché, qui est
le
premier grand flic, si l'on peut dire.
Le préfet de police, il est à Paris dans une situation très particulière, parce que comme préfet, il relève du ministre de l'Intérieur, mais le directoire qui a rétabli les ministres a établi un ministre de la police. Et donc, le préfet de police est partagé entre le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas de pouvoir de police, et ce ministre de la police. Et en 8, le titulaire du portefeuille de la police, c'est Joseph Fouché, qui était déjà sous le directoire. Et donc, le préfet de police relève à la fois donc du ministre de l'Intérieur et du ministre de la police. Et inévitablement, comme il est tout puissant dans Paris, c'est là où vraiment se trouvent les grands problèmes, il va avoir tendance a ambitionné de devenir ministre de la police et voyait apparaître une rivalité des polices qui se développe entre le ministre de la police et le préfet de police, comme il y avait eu sous la Révolution une rivalité des polices. N'oubliez pas, la chute de Robespierre tient au fait qu'il y avait un comité de sûreté générale qui avait, au moment de la terreur, la responsabilité de la police, et comme il échappait à l'autorité de Robespierre, Robespierre avait fait créer au sein du comité de salut public un bureau de police. Et donc, il y avait déjà une rivalité entre deux polices.
Alors, que va faire Napoléon pour est-ce qu'il va essayer, lui, de mettre un terme à cette...
Et non,
d'ambivalence.
Et non, car tout son intérêt est effectivement que, comme Fouché est un personnage encombrant, il va au contraire encourager le préfet de police à surveiller le ministre de la police. Et effectivement, il va y avoir des conflits, notamment la première affaire Mallet qui est découverte par
1809,
le... par le préfet de... 1808, par le préfet de police, mais que le ministre de la police s'efforce d'étouffer. Et il y a des complots sur lesquels ils sont en rivalité. Finalement, le premier à tomber, c'est Fouché. Et ensuite, ce sera le premier préfet de police Dubois qui tombe à son tour. Nous sommes en 1810. Les deux personnages, Dubois et Fouché, ont donné l'un au ministère de la police, l'autre à la préfecture de police, une importance qui était à la mesure de leur personnalité. Et lorsqu'ils s'effacent, qu'ils sont remplacés au ministère de la police par Savary et à la préfecture de police par Pasquier, qui est un magistrat de grand niveau, mais qui n'est pas un bon policier. C'est-à-dire, on va voir par la suite qu'effectivement les bons magistrats ne font pas les bons policiers. C'est l'effondrement. Et comme l'administration de la police sous Napoléon avait laissé un mauvais souvenir, en 1814, on supprime, et le préfet de police, le voilà supprimé, et on supprime le ministre de la police générale, et on remplace le tout par une direction générale de la police confiée à un crétin du nom de Dandré. Et c'est pour ça que ça fonctionne mal.
Oui, alors la police de la Restauration va avoir une très mauvaise réputation. Alors pourquoi ?
Alors donc, continuons notre évolution. Oui. Nous avons vu apparaître le préfet de police en l'an 8, c'est-à-dire en 1800. Bon, il se retrouve supprimé en 1814 par Louis XVIII montant sur le trône. Et on s'aperçoit que ça fonctionne mal. Et finalement, on rétablit la préfecture de police qui va être confiée à Bourrienne. Et puis ensuite, il y aura toute une série de préfets sous ce qu'on appelle la seconde restauration. Passons sur les 100 jours où il y a un préfet de police qui est réel. Ce qui se passe, c'est que la police va prendre une importance d'autant plus grande qu'elle est très politisée. Les chevaliers de la foi, et notamment de Lavaux, Franchet d'Espéré et autres, ont noyauté la police. Les chevaliers de la foi, ce sont les ultras.
Oui, donc qui arrivent avec le ministère de Villèle.
Qui vont devenir
en 1821.
Tout puissants à la tête de la police. Et donc, il y a là un pouvoir policier politisé à extrême, ce qui était moins le cas avec Dubois. Donc la préfecture de police est très politisée. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une liberté de la presse qui n'existait pas sous Napoléon. Liberté de la presse relative, bien entendu, il y a des lois. Mais on voit se multiplier les pamphlets, les journaux, et donc ils attaquent la préfecture de police. Il est évident qu'une préfecture de police sans journaux satiriques ou autres, c'est-à-dire sans, comme aujourd'hui le Canard enchaîné, ce serait évidemment une police qui serait très heureuse. Mais à partir du moment où elle est soumise à l'opinion publique, elle est soumise à la critique, il est évident que cette préfecture de police va devenir l'objet d'attaques. Et en 1830, le premier qui tombe, évidemment, c'est le préfet de police. Et c'est là que commence donc l'ouvrage que vous avez lire.
Absolument.
Et tout ce que j'ai évoqué est résumé, évidemment, en introduction, dans cet ouvrage qui s'appelait initialement « La préfecture de police sous la monarchie de Juillet » et que donc j'ai réédité 50 ans après, vous savez, 20 ans après d'Alexandre Dumas,
il y a 50 ans après,
et sous un titre un peu différent, « La police parisienne entre deux révolutions, la révolution de 1830 où elle montre ses limites et la révolution de 1848 où elle continue à montrer ses limites.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui va distinguer justement cette police de la monarchie de Juillet de la police de la seconde restauration qui avait été honnie donc, par un personnage de Balzac qui s'appelle Contenson dans,
oui,
dans
Splendeur et Misère. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Contenson, Corentin, oui. Il y a plusieurs Épera, il y a plusieurs policiers. Car, voilà, ce qui se passe, pourquoi...
Est-ce qu'il y a une épuration, par exemple, déjà, des cadres?
Ah, il y a des épurations, oui, oui, il y a oui. des épurations. Pourquoi prendre cette période 1830-1848? C'est parce que c'est entre deux révolutions. La préfecture de police est créée au sortir d'un coup d'État, pas d'une révolution. Elle s'achève en 1814, non pas par une révolution, par un nouveau coup de force, un coup d'État qui contraint, c'est-à-dire révolte des maréchaux et trahison de Talleyrand à Paris, qui contraint le gouvernement à s'effondrer, le gouvernement impérial. Là, c'est une révolution qui montre que la police n'a pas pu tenir la rue. Et pourquoi n'a-t-elle pas pu tenir la rue? Parce qu'elle n'a pas les effectifs suffisants. Parce que la force dans Paris, celle qui maintient l'ordre, c'est la garde nationale. La garde nationale, ce sont les bourgeois armés. Et les bourgeois armés, évidemment, s'ils sont dans le camp de l'ordre, bon, ça va très bien. S'ils ne sont plus dans le cas de l'ordre, ça va très mal. Aujourd'hui, nous n'avons plus la garde nationale. Mais ne l'oubliez pas, ça correspondrait à ce que nous appellerions des milices d'autodéfense, qui risquent de réapparaître. Et déjà, vous apercevez quelques embryons. Donc, la garde nationale, ce sont les bourgeois armés. Et il n'y a pas plus redoutable pour défendre la propriété, pour défendre la vertu de ses filles, etc.
Que le propriétaire ou le père.
Le père. Et donc, s'il est armé, soyez assurés que si on armait aujourd'hui un certain nombre de bourgeois, il y aurait peut-être...
Sur le modèle américain, alors.
Sur le modèle américain, il y aurait beaucoup plus d'ordre. La sécurité serait plus grande et il y a belle lurette que, selon des rumeurs que je ne peux pas confirmer, les banlieues prétendues armées auraient été désarmées depuis longtemps par les bourgeois qui seraient arrivés armés. Rappelez-vous comment la garde nationale désarme le faubourg Saint-Antoine, le faubourg ouvrier. On l'encercle, et puis, avec des canons et autres, et on désarme les ouvriers. C'est en 1795. Et après, le faubourg Saint-Antoine ne bouge plus. Donc, la vraie police, la grande force d'ordre, c'est la garde nationale. Mais il y a quand même à Paris le préfet de police, et le préfet de police s'appuie sur des sergents de ville. On a créé des sergents de ville, force très limitée. Il s'appuie sur des commissaires, il s'appuie sur des inspecteurs et il s'appuie surtout sur les mouchards, les espions, les agents secrets. Ces fameux agents secrets que, il faut dire, l'administration de l'époque a été extrêmement honnête, nous n'arrivons pas à les identifier.
Ah oui.
Était-il
payé? Parce qu'on a reproché à la seconde restauration d'avoir usé de fonds secrets pour
oui,
payer.
Oui, c'est les fonds secrets.
Sous la monarchie de Juillet, c'est la même chose?
Ah, c'est la même chose, d'accord. Bien sûr, c'est la même chose.
C'est plus continuité que rupture, alors.
Simplement, c'est que chaque fois qu'un préfet de police tombe ou autre, il détruit.
Oui, forcément.
Parce qu'on a, pour la préfecture de police, autant et le ministère de la police de Fouché, on a les codes,
oui.
Mais on n'a pas la grille. Oui. On n'a pas la grille. Donc on sait qu'on a versé d'argent à tel, mais ce sont, on ne sait pas les vrais noms. Donc ça reste, c'est ça le propre des agents secrets. Et le propre d'une bonne administration, c'est de tenir secret le nom de ses agents. Si elle n'est pas capable d'en maintenir le secret,
elle ne peut pas s'assurer de fidélité.
Ben oui, et c'est ce qui est arrivé, rappelez-vous, sous la Ve République, le Rainbow Warrior. Et bon, c'est ennuyeux. Oui.
Un peu.
Oui.
Alors, cette nouvelle police a des services assez nombreux. Il y a notamment une police politique. Alors, que fait-elle? À quoi sert-elle? Et qui surveille-t-elle?
Alors, la police politique a un grand développement sous la monarchie de Juillet, parce qu'il faut voir que la monarchie de Juillet est un régime extrêmement menacé. La monarchie de Juillet doit faire face à l'opposition des légitimistes, des royalistes légitimistes, des carlistes, des partisans de Charles X, puisque Charles X a été renversé au profit de Louis-Philippe. Il y a donc une opposition royaliste, qui a encore des, en Vendée et autres, qui aura l'expédition de la duchesse de Berry. Donc, il y a une menace réelle. Il y a une menace bonapartiste, puisque Napoléon a été renversé en 1815, mais ses partisans, les demi-soldes, ça commence à fondre. Mais enfin, bon, il y en a encore.
Et qui complotent.
Et qui complotent. Ah, il y a des complots
bonapartistes. Et alors,
pour... alors, jusqu'en 1832, en faveur de l'Aiglon. N'oubliez pas qu'il y a Napoléon II qui est prisonnier à Vienne. Et puis ensuite, ce sera Louis-Napoléon Bonaparte qui va lancer, effectivement, qui va tenter deux coups d'État sous la monarchie de Juillet. Et puis, il y a ceux qui ont été frustrés en 1830, c'est-à-dire les républicains qui avaient cru qu'on allait proclamer la République. La République n'est pas très loin. C'était quand même en 1799, on était encore en République. Là, nous sommes en 1830. Donc, vous voyez que les républicains restent très forts. Donc, la monarchie de Juillet se trouve au confluent de trois fleuves qui risquent chacun de l'emporter, à condition, évidemment, qu'ils ne s'entendent pas. Sinon, effectivement, le danger serait réel. Donc, il faut surveiller tous ces milieux. La police politique prend donc là une importance considérable. Et s'y ajoute le fait que Louis-Philippe est le souverain qui a essuyé le plus d'attentats. C'est lui. Après, c'est Henri IV, c'est Napoléon, et arriverait après le général de Gaulle, vous voyez, dans la hiérarchie des hommes d'État menacés d'attentats. Et bon, il y en a qui ça n'a pas réussi, c'est Henri IV, et puis Louis-Philippe, comme Napoléon, et comme le général de Gaulle, échappera aux attentats. Mais il faut les
déjouer.
Grâce
à la police.
Ça, c'est la police politique. Et les attentats se déroulent à Paris, essentiellement. C'est la machine infernale.
Parce qu'on a souvent tendance à imaginer justement une police politique. Là, vous montrez en fait qu'elle protège le souverain.
Oui.
Elle a donc un rôle, on a l'impression, plutôt positif. Alors que quand on parle de police politique, on imagine plutôt des institutions répressives à l'image du KGB ou de la Gestapo ou de choses beaucoup plus... négative, si on
oui,
veut dire.
Oui, mais remarquez, même le NKVD de Béria protège Staline.
Oui. Et bon, mais il n'y a pas de.
La blouse blanche est censée être un empoisonnement des dirigeants soviétiques. Donc, il y a. La police politique a un rôle de protection parce que nous sommes dans une période troublée. C'est ça l'intérêt. C'est pourquoi ce livre se lit, je l'espère, avec intérêt, parce que nous sommes sous une menace constante de violence, soit de révolution, soit d'attentat. Mais il y a aussi, qui agite encore plus peut-être le monde parisien, c'est la vie politique, c'est que nous sommes dans un régime parlementaire qui n'avait pas existé avant, disons, avant 1815, le premier gouvernement renversé, enfin, il n'est pas renversé, il démissionne à temps, mais le premier gouvernement face à une opposition parlementaire, c'est en 1815 le fameux ministère Talleyrand-Fouché, un ministère formidable, mais qui n'a pas su maîtriser les élections et qui se retrouve confronté à la Chambre introuvable. Là, les gouvernements sont aux prises avec une opposition. Et donc, quand le ministre de l'Intérieur entre dans une combinaison politique, il va essayer d'avoir tous les renseignements possibles sur ses adversaires. S'il peut les compromettre dans des affaires louches, il ne va pas s'en priver. Nous sommes vraiment à l'apogée du régime parlementaire où tous les coups sont permis. Donc, il y a la rue, il y a les attentats, c'est-à-dire, il y a la rue, il y a les conspirateurs et il y a les débats parlementaires. Alors, effectivement, c'est une époque heureuse pour la police politique.
Alors, peut-être aussi pour les caricaturistes ou pour les journalistes. Quel est l'état de la censure à cette époque ?
Elle a beaucoup varié. Les lois sur la presse ont varié. Il y a tantôt liberté, tantôt, après l'attentat Fieschi, on restreint la liberté de la presse, alors qu'en 1830, précisément, Charles X est tombé parce qu'il voulait restreindre la liberté de la presse. Donc, il y avait une grande époque liberté de la presse.
Et ensuite,
c'est
donc un resserrement.
Évidemment la grande époque des caricaturistes et autres. Donc, il y a une censure, mais une censure qui varie et qui, finalement, n'est pas féroce. Alors, il est évident que ça, c'est la police politique.
Il y a également la sûreté.
Alors, nous arrivons effectivement à ce qui a... Voilà,
nous parlons des gens du criminel lambda, si je puis dire, du droit commun, du surineur, du...
Oui. Et c'est là la partie...
Du proxénète.
La partie qui a aussi fasciné l'opinion, qui, je dirais même, qui a le plus fasciné l'opinion. La preuve, vous le trouveriez avec Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Vous
les
le voyez,
mystères de Paris.
Oui, les mystères de Paris de Gensu, les habits noirs de Paul Féval. Vous avez le roman feuilleton, les Mohicans de Paris d'Alexandre Dumas. Le feuilleton s'empare de... ce qu'on appelle alors les classes dangereuses. Et il y aura un très joli livre de mon maître, Louis Chevalier, auquel je rends hommage, effectivement, dans cet ouvrage. Louis Chevalier, qui fut professeur au Collège de France et qui avait écrit plusieurs ouvrages sur Paris, dont « Classe laborieuse » et « Classe dangereuse », où il montre comment se fait le passage de la classe laborieuse à la classe dangereuse. Et donc, ces classes dangereuses sont redoutables.
Où vivent-elles? Parce que nous sommes encore dans le vieux Paris, là.
Nous sommes dans le centre de Paris. C'est dans le
Donc, le Paris haussmannien n'existe pas.
N'existe pas encore.
Les auditeurs de Canal Académie.
C'est encore... même la rue de Jérusalem, c'est dans un lacis de rue, ce qui fait que les types peuvent assez facilement s'évader de la préfecture de police.
On n'est pas très loin de la Cour des Miracles.
Oui, ah ben non, ça reste. Et alors, il y a l'entassement des ouvriers, car Paris emploie une main-d'œuvre ouvrière qui vient de province. Mais il arrive très souvent que, à cause des charmes de la vie parisienne ou autre, les ouvriers ne rentrent pas dans leur pays, enfin dans leur province, à l'époque de la morte saison des travaux. Et donc, ils restent à Paris. Et là, ils glissent assez facilement dans la classe dangereuse. Et alors là, c'est vraiment le mythe de la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que vous voyez d'un côté apparaître Lassner, l'assassin par excellence, celui qui a suscité toute une littérature à l'époque. Lassner, qui sera guillotiné d'ailleurs.
C'est un peu notre Jack l'Éventreur.
Oui, voilà, c'est le nôtre, et il sera immortalisé par Marcel Héran dans Les Enfants du Paradis, qui fait un Lassner extraordinaire quand on compare les gravures et l'interprétation de Marcel Héran dans le film de Carnet. Ça colle admirablement. C'est l'assassin dandy, c'est l'assassin poète, c'est l'assassin qui n'a pas de conscience, qui dit « mais oui, je tue, mais je dors très bien après avoir tué ». Donc, c'est le personnage fascinant. Et en face, vous avez l'autre personnage fascinant, c'est Vidocq.
J'allais y venir. Oui.
Vidocq, qui est le bagnard devenu policier et dont Balzac, fasciné, va s'emparer en faisant Vautrin, le personnage de Vautrin. Et vous avez un troisième personnage dont les mémoires vont rencontrer un grand succès, c'est le bourreau, c'est Samson. La dynastie des Samson arrive là à son apogée. Alors vous voyez, Lassner, Vidocq, Samson, ah, ça fait quand même
ça fait de
quelque chose qui fascine. Oui, alors ça vous explique pourquoi toute la littérature de l'époque est fascinée par le crime, est fascinée par le vol, est fascinée par toutes ces affaires qui défrayent la chronique. Et le journal qu'on lit à l'époque, c'est la Gazette des tribunaux.
Qui raconte donc l'ensemble des faits divers.
Et j'ouvre une parenthèse, puisque nous avons des confrères romanciers, notamment à l'Académie française. Peut-être certains sont-ils à court de sujets, de romans. Plongez-vous dans la Gazette des tribunaux. Vous avez 75 sujets de romans policiers, de crimes passionnels, etc. C'est extraordinaire. Quand je travaillais à la préfecture de police, donc chez ma mère, si je puis dire, et donc dans le cabinet de travail, qui n'était pas très grand, parce qu'il n'y avait pas grand monde, c'était tapissé de la Gazette des tribunaux. Et en attendant le carton, j'ouvrais la Gazette des tribunaux et je lisais comme ça une affaire. Ça vaut la série noire.
D'ailleurs, ah oui, il faudra revenir tout à l'heure sur votre dictionnaire du roman noir, du roman policier, nous y reviendrons. Mais on parlait de Vidocq. Vidocq lui-même va écrire des mémoires qui vont reposer sur ces célèbres affaires à lui. Mais Vidocq revient, je crois, en 1832 à la direction de la Brigade de la Sûreté. C'était un cheval de retour un peu.
Oui, il a été
Il a commencé sa carrière
sous Napoléon.
Donc 1812, je crois.
1811. Il commence sous Napoléon. Et Napoléon, c'est aussi une grande époque de la police. Parce qu'il y a Schulmeister, l'espion. Oui, donc, vrai. Voyez, vous avez... Tout est déjà dans ce début du 19e siècle. Pour les gens qui cherchent les sujets de romans policiers, vous avez tout là. Et donc, on voit le Vidocq débuter parce que c'est un certain Henri qui me remontait à la lieutenant général de police, qui était perclus de rhumatisme, qui ne pouvait plus mener des enquêtes sur le terrain. Alors il était dans son bureau et il avait les rapports, et en fonction de ce que nous appelons aujourd'hui le casse, il pouvait déterminer le voleur qui avait fait le casse. Et c'est le premier...
C'est ce qu'on appelle les profilers, non ?
Oui, voilà, il pouvait, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était moins complexe qu'aujourd'hui.
Oui, avec son coup d'œil.
Mais donc, avec son coup d'œil, on disait, ça, c'est la bande 2, et il était capable, et c'est les premiers qui comprennent l'importance des indices.
C'est digne de Sherlock Holmes.
Oui, les indices, l'explosion, c'est là... commence le problème des indices, c'est l'explosion de la machine infernale en 1800, donc en décembre 1800, attentat contre Napoléon. Celui-là, c'est le premier attentat à la voiture piégée, en quelque sorte. Et alors, que reste-t-il ? Il reste les débris de la voiture et il reste la tête du cheval, car l'explosion a emporté l'arrière-train. Et donc, à partir de là... les policiers d'Henri, qui encore est valide, vont aller faire le tour des marchands de chevaux, montrant la tête du cheval. Et alors, Père Mathurin, ce cheval, vous l'avez vendu ? Ah, oh non, on ne vend pas des chevaux comme ça. Oh là là. Alors, Père Ernest, vous connaissez ce cheval ? Ah non, non, non. Alors, Père Jules, ah oui, oh, c'est des crétins qui m'ont acheté ce cheval. Oui, il ne valait plus rien. C'était une jument. Elle ne valait plus rien. On ne savait plus qu'en faire. Ils l'ont acheté. Alors donc, on a le signalement des acheteurs. Avec la charrette, on a le signalement des acheteurs de la charrette. Comme à l'époque, il y a la police des garnis, c'est-à-dire ce qui a été supprimé sous M. Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des registres dans les hôtels. Vous deviez vous déclarer, vous étiez enregistré. Donc, à partir en recoupant tout, et Paris étant encore enfermé dans les barrières de l'octroi, on ferme immédiatement Paris, vous ne pouvez plus entrer ni sortir de Paris.
Et c'est un système de presse.
Oui, et voilà. Et il retrouve 2 sur 3 l'autre a réussi à s'échapper, des assassins. Donc ça, c'est Henri. Alors Henri constate que quand même, sa police marche pas très bien parce que les meilleurs, ce sont les formants eux-mêmes. Donc si on en retourne, ils vont devenir extrêmement efficaces parce qu'ils expliqueront bien comment on procède. Ils connaissent tout. Qu'il faut connaître. Donc, on organise en 1811 l'évasion d'un certain Vidocq qu'on laisse dans la nature et qui va aller dans les tapis francs, comme on disait à l'époque, les bouges. Et là, il propose, notamment aux bandits les plus chevronnés, il leur propose des coups. Par exemple, tiens, on va faire le casse de l'Institut. Bon, et il y a de l'argent. Alors, le type, c'est très bien. Alors, voilà, on se retrouve donc, alors, avec les poignards et tout, le temps, à telle heure. Hein, bon, Vidocq prévient la police. C'est quand les types.
Mais là, il y a de l'incitation, alors.
Ben oui, c'est la provocation.
Ah oui.
Mais c'est comme
ce qui est interdit aujourd'hui.
Mais c'est comme ça que vous faites tomber. Oui. Ben, il faut prouver après qu'il y a une provocation. Donc, Vidocq, c'est ça. Mais alors il a quand même il est rue Sainte-Anne à l'époque, oui. il a un service à part qui n'est pas officiel et il a recueilli un certain nombre de bagnards dont notamment le fameux Coco Lacour qui va merveilleux qui va lui succéder. Donc ce sont des forçats qui sont bien plus efficaces que les policiers. D'ailleurs, regardez 1943, 1942, 1943, 1944, Lafont et Bonny sont bien plus efficaces que la préfecture de police. Et bon, c'est la fameuse bande de la rue Lauriston. Bon, c'est la même chose. Donc, si vous faites appel à des gangsters, vous risquez d'avoir des résultats. Et puis, quand même, ça se sait, et Pasquier, dans ses mémoires, qui est un homme très... quand elle est montée, dit « Ouh là là, c'est quand même embêtant » et il le supprime.
Donc, 1827.
On supprime déjà sous Napoléon et puis on resupprime après et on reverra apparaître Vidocq. Alors,
il revient en 1832 cette fois.
Mais il va rencontrer un grand succès à cause de ses mémoires. Parce que les mémoires de Vidocq seront un succès de librairie. Mais, comme d'ailleurs les mémoires de Samson, et comme d'ailleurs les mémoires de Lassner. voyez, tout y est. Et on sait, on se précipite aujourd'hui sur les mémoires des grands assassins, des grands flics, etc. Vous voyez, c'est déjà en place. C'est déjà en place. Samson, Lassner, Vidocq. Or, on ne peut pas. D'abord, les archives de la préfecture de police ont brûlé. Il n'y a pas de dossier Vidocq. Et on ne peut pas vraiment contrôler ce que raconte Vidocq. Donc, il faut se méfier.
C'est-à-dire
beaucoup.
Entre ce qu'il dissimule ou ce qu'il
fantasme. Oui, ce qu'il raconte, ce qu'il fantasme. Lassner aussi.
On ne peut pas recouper. Il n'y a pas des étudiants qui ont pu recouper.
Non,
pour,
on ne peut pas. C'est très difficile. Il y a très peu. Enfin,
faute d'archives
Oui, faute d'archives. Ouais, les archives de la police, la préfecture de police ont brûlé. Et il avait déjà ses papiers à part. Donc, c'est assez difficile à contrôler. Alors, certaines affaires, vous les retrouvez dans la Gazette des tribunaux, vous les retrouvez dans la presse. Mais c'est tout. Vous ne pouvez les dire de Vidocq, vous ne pouvez pas les contrôler avec sérieux. De même qu'ensuite, il y aura tous ces mémoires de policiers, Canler, M. Claude et autres. Tout ça, effectivement, c'est très sujet à caution.
D'accord. Alors là, nous parlons donc d'un policier ancien forçat. Il y a une très très mauvaise réputation des policiers sous la monarchie de Juillet. Je vais lire un ou deux passages donc, tirés de votre ouvrage « La police parisienne entre deux révolutions, 1830-1848 », donc paru aux éditions du CNRS. L'un vient donc de Guyon, qui nous dit « Tous les jours, ces limiers de la paix se répartissent dans la capitale. En battant le pavé de Paris, ils chassent par monts et par veaux, flairant sans cesse et dépistant des maladroits fripons, dont peut-être ils furent jadis les amis. » Ce qui nous donne déjà une idée sur leur passé. « Dans leurs aguets, ces espions conservent parfois leurs attributions. Les uns ont la tranquillité des rues, la sûreté publique et les mœurs, d'autres sont chargés de la politique, adroits lévriers qui savent, sans qu'on en doute autour d'eux, faire lever le lièvre de l'opinion publique. » Et un autre, Horace Resson, affirme « On ne saurait se faire une idée des innombrables exactions commises sous l'ancienne administration par ces prétendus officiers publics. Eux seuls eussent suffi pour déconsidérer l'administration à laquelle ils appartenaient, alors qu'elle n'eût pas contenu d'autres éléments de dégradation. » Autrement dit, les policiers suffisaient largement à l'insécurité sans y ajouter les criminels.
Oui, c'est alors ça, ce sont les pamphlets de l'époque. Horace Resson a écrit une histoire de la police et on a prétendu que c'était Balzac.
Oui.
Que ce que vous lisez là, ça avait été écrit par Balzac, Horace Resson, toutes sortes de polygraphes. Vous savez, et donc Guyon, lui, et c'est le dictionnaire biographique des commissaires de police, où lui-même ayant été commissaire, bon, il faut en prendre et en laisser, oui.
Alors Balzac lui-même est très sévère. C'est dans Splendeur et misère des courtisanes où il fait le portrait d'un policier, où il dit, donc après avoir fait un portrait plutôt sévère, c'était ni plus ni moins le magistrat inférieur appelé très antinomiquement officier de paix.
Oui, c'est ironique. Il faut lire le meilleur témoignage de cette police, c'est Splendeur et misère des courtisanes. Et quand vous recoupez avec les archives, quand vous réétudiez l'administration, tout est merveilleusement observé. Balzac est le peintre
de l'exactitude.
Balzac est le peintre de la monarchie de Juillet d'une exactitude extraordinaire. Le pouvoir du juge d'instruction, notamment, tout ça, toutes les commissaires aux délégations judiciaires, tout ça est parfaitement dépeint. Et parce qu'il connaissait les mécanismes, puisque c'est lui qui a probablement écrit l'histoire de la police d'Horace Resson. Donc, la précision des descriptions est très juste. Et effectivement, Vidocq, Vautrin, c'est la même chose. Non, Balzac avait déjà étudié le pouvoir de la police sous Fouché avec une ténébreuse affaire, qui est l'enlèvement du sénateur Clément Drys, et on voit Fouché, qui est le deus ex machina, et son personnage de Corentin, c'est tout à fait l'un des personnages de la police de Fouché. D'ailleurs, il laisse suggérer que ça aurait été un fils de Fouché, ça, c'est son imagination, mais vous retrouvez Corentin aussi dans les Chouans. Bref, c'est le mythe de la police.
Et comment expliquer cette très mauvaise réputation malgré ce mythe alors? Parce qu'il y a des révocations, il y a ces pamphlets, comment expliquer? C'est une faute de recrutement, c'est à quoi est-ce dû?
C'est une police qui n'a peut-être pas été aussi efficace qu'on ne le pense. Ce que nous voyons, nous, c'est le mythe. Et au fond, ce livre compose le mythe de la police. Mais dans la réalité, il est bien évident que vous étiez confronté à des gens qui manquaient d'envergure. On crée chaque fois un mythe. On a créé, par exemple, le mythe Beria, la police soviétique, de ce qu'on n'appelle pas à l'époque le KGB, c'est le NKVD, mais qui viendra le KGB. Il y a l'opinion elle-même crée le mythe de que la police sait tout, peut tout, est redoutable. Et la police se garde bien de le démentir.
Évidemment, ça fait partie de son efficacité.
C'est pourquoi, dans ce livre, si vous voulez, j'aborde à la fois le mythe, c'est-à-dire la Balzac et Stendhal et d'autres, Paul Féval et Eugène Sue, et en même temps, je montre la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie quotidienne des bureaux, la vie quotidienne d'un commissaire, la vie quotidienne d'un officier de paix.
Alors, peut-on revenir un peu là-dessus ? Oui, parce que ce sont des pages passionnantes, ça, qui nous, on a encore quelques minutes, qui nous montrent justement la vie, cette espèce de ruche finalement, qui n'est pas encore le quai des Orfèvres, mais qui est en soi aussi un objet de film ou de livre.
Oui, alors ce sont les bureaux, ce sont des employés qui se succèdent, s'il y a des dynasties même. Alors c'est l'époque encore des registres. Il n'y a pas les feuilles volantes, on utilise les registres, qui comme ça se perd moins. Il y a la routine, mais il y a déjà ce qu'on peut appeler les fichiers. Malheureusement, il n'y a pas les empreintes digitales, mais les signalements ont une importance très grande. Et il est évident que ces bureaux sont miteux, crasseux. Ce sont vraiment des gens qui s'en fichent. Au fond, la description que je donne de ces bureaux, et les bureaux du fameux film de Clouseau, Quai des Orfèvres, c'est la même continuation, c'est-à-dire des soupentes, des policiers mal habillés, qui sont là avec des plumes d'oie et puis ensuite des machines à écrire qui fonctionnent mal. Bref, c'est toute une organisation où, au fond, on est autant sur le terrain que dans le bureau et pourtant, ça marche. Ça marche puisque tous les attentats contre Louis-Philippe ont échoué et qu'au fond, le régime s'écroule en 1848 par l'aveuglement de Louis-Philippe. Mais la police a prévenu.
La police avait vu venir.
Ils préviennent. Oui. Non, oui. Ils préviennent. Mais bon, il y a eu cet aveuglement, c'est-à-dire le refus. C'est Guizot, on ne va pas en dire du mal, puisque c'est le père de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais c'est Guizot, son aveuglement, son refus de baisser le sens, qui a déclenché les journées de février 1848, qui emportent encore une fois
la préfecture.
Et elle est supprimée à temps très bref. Et c'est Cossidière, les révoltés, enfin les indignés, qui s'emparent pour un temps des locaux de la préfecture de police.
Alors, peut-on savoir quel est l'héritage de cette police de la monarchie de Juillet, donc finalement pour la police moderne ? Est-ce qu'il y a un héritage d'ailleurs, ou est-ce que c'est simplement une continuité depuis l'Empire jusqu'à aujourd'hui ?
Je crois que vous posez bien le problème. C'est plus une continuité qu'un héritage. On se passe les dossiers, on se passe les méthodes. Alors, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, effectivement, tout ça paraît périmé. Pourquoi ? Parce que vous avez l'ordinateur.
La police scientifique.
Vous avez une police scientifique qui a laissé loin derrière elle Bertillon, qui pourtant avait marqué un grand progrès. Mais aujourd'hui, vous avez tous les moyens de surveillance possibles et imaginables. Vous avez les drones, tenez, la police va s'en emparer un de ces jours.
Et donc, les caméras, oui.
Mais donc, vous avez des méthodes qui devraient permettre à la police d'être infiniment plus efficace, et pourtant.
Merci beaucoup Jean Tullard, donc de l'Académie des sciences morales et politiques. Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous permettra, donc grâce à Jean Tullard et son ouvrage, donc La police parisienne entre deux révolutions, 1830-1848, aux éditions du CNRS, que cette émission donc, et cet ouvrage vous permettront de redécouvrir les grandes figures de policiers du Paris pré-haussmannien, donc décrites par Balzac, Eugène Sue. Et nos grands auteurs classiques, je vous dis à bientôt.